Europe 1, en balade avec Éric Orsenna. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est Éric Orsenna qui nous emmène en balade aujourd'hui, et pas n'importe où, car le romancier n'est pas seulement prix Goncourt, économiste, ancien conseiller de François Mitterrand, magistrat au Conseil d'État, navigateur, reporter, grammairien, entrepreneur et président de tout un tas de trucs. Il est aussi membre de l'Académie française. C'est donc au 23 Quai Conti qu'il nous attend pour nous faire visiter l'Institut de France avec ses 5 académies et ses plus de 450 académiciens.
Frédéric Taddeï, en balade avec Éric Orsenna sur Europe 1.
Bonjour Éric Orsenna.
Bonjour Monsieur Taddeï.
Nous sommes devant l'Institut de France. Il y a juste derrière nous les embouteillages du Quai Conti et devant nous la plaque.
La plaque de l'Institut voilà. Avec les 5 académies qui constituent l'Institut, puisque on parle de l'Académie française, parce que l'Académie française est évidemment la plus ancienne, mais il y a les autres qui ne sont pas du tout négligeables, puisqu'il y a l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est-à-dire une sorte de repère d'érudits. Pourquoi inscriptions et belles-lettres? Parce que comme on voulait tenir un peu la communication au temps de Louis XIII et Louis XIV, donc on contrôlait toutes les inscriptions et qu'il y avait notamment au bas des statues et puis sur les monnaies, sur les médailles, et donc on contrôlait ça. Et puis il y a évidemment l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie dont j'adore le titre, sciences morales et politiques, comme si la morale était une science et comme si la politique était un art.
Et comme si le fait de les adosser l'une à l'autre n'était pas...
c'est les aider un peu et se leur donner une légitimité dont on voit aujourd'hui à quel point elle est fragile.
Ce qu'on voit aussi cette plaque, c'était un collège au départ.
Hein. C'était un collège des quatre nations, et c'est-à-dire les quatre régions de France qui venaient ici pour apprendre, et c'est Mazarin. Et tout à l'heure, nous allons visiter d'ailleurs la bibliothèque de Mazarin, parce que nous allons voir
Mazarine.
La Mazarine, qui n'est pas un prénom de fille de président, mais qui est aussi une bibliothèque.
Ouais, avec tous les bouquins de Mazarin, les siens.
Avec les bouquins de Mazarin lui-même.
Et ça, c'est son argent qui a permis de construire le collège. Mais l'église aussi, la coupole, c'était la coupole de l'église.
Et la coupole, alors, évidemment, c'est l'argent de Mazarin, mais comme il l'avait piqué à la France, c'était un juste retour.
Il avait demandé sur son testament qu'on construise ce collège et cette église dont vous bénéficiez aujourd'hui.
Et c'est un endroit, et c'est les plans de Levaux, puisque Levaux, c'est aussi l'architecte qui a travaillé à Vaux-le-Vicomte, pour un autre nom comme ça, et c'est évidemment un des architectes de Versailles.
Mais quand on se retourne, Éric Orsenna, on voit le Conseil d'État, on voit le Louvre.
Alors, on ne voit pas le Conseil d'État, parce qu'il est de l'autre côté.
On l'imagine.
On l'imagine derrière le Louvre. Donc, on est dans un des cœurs de la France, puisqu'il y a le Palais Royal, le Conseil d'État, l'endroit qui s'appelait Palais Royal, c'était le Palais du Roi, qui a été donné au roi, au fond. Et puis, c'est un des hauts lieux aussi de la montée de la République. C'est là où il y a le Conseil d'État. C'est là...
Vous étiez.
C'est là où est mort Molière, puisqu'il y a la Comédie Française qui est pas loin. Il y a évidemment tout le Louvre. Et puis, on traverse la Seine avec le Pont des Arts et on se retrouve là où nous allons arriver. D'ailleurs, accueillis par la cloche qui sonne l'heure qu'il faut.
Eh bien, entrons.
On va peut-être commencer par la coupole.
Oui, avec plaisir.
Voilà.
Donc là, on entre.
Dans le Saint des Saints, qui est ce joli monument. Voilà, ce qui est dit du règne de Louis XIV. Très belle. Alors, vous allez voir, c'est de très belles langues, comme on dit. Ce joli monument, acte de munificence du cardinal de Mazarin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire Mazarin avait tellement piqué de pognon qu'il a eu une sorte de remords avant d'affronter le juge suprême, et il s'est dit, je vais peut-être en donner un peu. Servant d'église au Collège des Quatre Nations, fondé par ce ministre, fut élevé sur les plans de Levaux et par d'Orbais, son élève, architecte, en 1662.
C'est la belle pierre de taille.
Là, c'est bien travaillé. Là.
C'est
bien
magnifique.
Travaillé, c'est bien retenu, c'est doux. Ouais. Alors, je me souviens de François Mitterrand quand il choisissait la pierre pour le Grand Louvre. Alors il caressait, pour savoir, et il voulait que ce soit une pierre de Bourgogne, comme ça, qui soit là, comme ça. Donc pas loin de chez lui, de Château-Chinon, puisque au fond, au fond, voilà, donc c'était un peu son château à lui. Donc, parce que la République est tissée de monarchie, comme vous savez.
Et oui. Là, c'est le tombeau de Mazarin, juste devant nous.
C'est-à-dire que il n'est pas là. C'est-à-dire le corps n'est pas là.
Ah.
Ici, alors, c'est la coupole. Nous avons ici Mazarin.
Avec un ange.
Qui est avec un ange, bien sûr. Il était... j'adore sa présentation. On dit de lui que c'est un grand collectionneur. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a piqué des trucs un peu partout. Et qu'il est habile politicien. Il succéda à Richelieu comme principal ministre sous Louis XIII. Et puis sous Louis XIV. Et c'est seulement à sa mort que Louis XIV prend vraiment la réalité du pouvoir.
Ben, il décide même qu'il n'aura plus jamais de ministre.
Et qu'il n'aura plus jamais de ministre, que ce sera plus simple. Nous, on voit de temps en temps un président qui prend un ministre pour le faire assumer les réformes un peu compliquées, comme on le voit ces temps-ci. Mais enfin, lui, pas du tout, il trouve beaucoup plus simple. Et donc, c'est Mazarin qui signe l'acte de fondation avec le collège. Et c'est un vrai collège, c'est-à-dire, puisque c'était vraiment l'instruction gratuite et d'école.
Ah oui, il y avait
c'est ça.
Ici, il y avait qui était élève au collège des Quatre Nations. Il y avait Lavoisier, il y avait Jacques-Louis David, le peintre, et il y avait le chevalier Déon. Aussi.
Exactement. Et c'est les quatre. Quand on dit les quatre nations, c'était les nations qui venaient d'être annexées,
ouais,
et qu'on voulait reprendre comme ça, comme pour intégrer dans le royaume. Et donc ici, on a le cénotaphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas là, son corps n'est pas là, mais c'est une statue qui lui rend hommage.
Et c'est du marbre, le marbre sous nos pieds, mais on va regarder la coupole.
Frédéric Taddeï, en balade avec Éric Orsenna sur Europe 1.
Nous sommes avec Éric Orsenna dans l'Institut de France. Nous trouvons maintenant juste sous la coupole. Alors, qu'est-ce qui se passe sous la coupole exactement, Éric Orsenna ?
Sous la coupole, c'est évidemment lors des séances solennelles où nous avons les prix donnés par l'Académie, notamment les prix de vertu. Imaginez que j'ai dû par deux fois prononcer l'éloge de la vertu, ce qui est évidemment contradictoire avec mon existence, d'autant plus que les deux fois, c'était en face de mes parents qui connaissaient le dossier. Donc je vais vous dire, quand je faisais l'éloge de la vertu, ma mère n'était pas la dernière à se marrer, avec évidemment mesure, car c'était quelqu'un de très mesuré et bien élevé. Alors ici, il y a la perpétuelle, donc c'est pour l'Académie française, Madame Carrère d'Encausse,
oui.
Et puis nous avons le directeur de séance, et puis le chancelier qui est là, et donc là il y a les académiciens, et puis il y a tous les invités qui sont présents.
Les académiciens sur les sièges verts,
les invités
sur les sièges
verts. Voilà, qui ne sont pas toujours les plus verts, c'est pour ça que, mais leur habit est vert.
Vous avez été le Benjamin, d'ailleurs.
Ben, j'ai été le Benjamin, j'ai tout fait pour rester longtemps le Benjamin, et puis l'âge venant, il y a des gens qui évidemment sont venus et sont été plus jeunes que moi. Comme disait Jacqueline de Romilly, qui d'habitude parlait grec, mais là, elle parlait en anglais, elle disait « We are not as young as we used to be ». Nous n'avons pas toujours été aussi jeunes comme ça que nous l'étions. Et donc, elle était là. Et alors, c'est là où il y a lieu les grands discours. C'est là où on est reçu. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on célèbre l'éloge de la personne qui vous a précédé. Moi, c'était Jacques-Yves Cousteau.
Ouais.
Donc, en tant que marin, c'était merveilleux de saluer Jacques-Yves Cousteau. J'ai un fauteuil magnifique, puisqu'il y a des gens pas très connus, mais il y a les deux gloires du fauteuil, c'est Pasteur.
Pas mal.
Et puis Littré. C'est quand même pas mal.
Le dictionnaire.
Absolument.
Pasteur à qui vous avez consacré un livre.
Absolument. Et puis, il y a l'abbé de Choisy, lequel abbé de Choisy a passé toute sa vie en femme.
Ah oui.
Donc, ce que je n'ai pas encore assez fait, mais peut-être que ça va venir, puisque je souhaite étendre mon public et pourquoi pas être transgenre. Donc, je vais peut-être être abbé Orsenna, ça m'irait bien.
Oui,
et donc, voilà.
Europe 1, en balade avec Éric Orsenna. Frédéric Taddeï.
Alors, celui qui vient d'être reçu fait l'éloge de celui qui l'a précédé, et quelqu'un de l'Académie qui a été choisi fait l'éloge de celui qui vient d'arriver. Et moi, c'était Bertrand Poirot Delpech qui racontait des histoires qui n'auraient pas dû être complètement racontées. Parce que,
je me souviens, il parlait de votre goût insatiable des femmes.
C'est incroyable, je ne sais pas d'où ça lui venait. Il avait
pour parce que aujourd'hui on traduirait prédateur.
Oui, non, pas du tout. J'étais dans la réciprocité, dans une sorte de j'étais
de don et de contre-don.
Oui, comme ça. Bon, enfin, une dame passe, j'ai du mal à ne pas la regarder, mais dans tout bien tout honneur. Vous savez, mon père, il est mort il y a quelque temps, mais il était très très beau d'abord. La génétique s'est un peu déclinée, mais lui était vraiment magnifique. Et il avait 87 ans, on était à une terrasse de café, il voit une belle femme passer, et il lit cette phrase formidable, « Ah si j'avais encore 80 ans !» Et alors, ce qui se passe ici, c'est que nous descendons dans les séances solennelles, et nous avançons ici.
Joli escalier en bois.
Voilà, hein. Très joli escalier, et nous descendons sous les tambours. C'était ah oui. Oh là là, c'est très émouvant.
C'est la garde républicaine.
C'est la garde républicaine qui est là, sous les tambours. Et j'avais cette chance infinie, comme j'ai été élu tôt et que mes parents m'ont eu très tôt, mes deux parents étaient là, juste en face.
Oui, d'ailleurs, Coronel Pech avait dit qu'ils étaient plus jeunes que bien des membres de l'Académie.
Ça, c'est clair, ils étaient bien plus jeunes. Et alors, ce qui était très drôle, c'était comme ils s'aimaient pas trop, enfin, il y avait quelques tensions entre eux. Donc, mon père était avec sa maîtresse, ma mère était avec son amant, donc tout ça était très, très drôle. Et au milieu, comme ça, etc. Enfin, c'était très amusant d'être juste en face de ses parents. Donc, c'était très, très drôle. Mais une sorte de gaieté, comme ça, qui était très joyeuse.
C'est ce qui peut arriver de mieux à des parents de voir son fils immortel.
Comme vous dites. Mais, vous savez, on dit qu'on est immortel, mais on n'est pas éternel. Et la vérité m'est venue de mes amis africains quand j'ai été invité à Dakar. Et il y en a un qui a dit, ah, il est immortel, mais il n'est pas éternel. Et au bout de 3 heures de palabre, il a dit, et vous savez pourquoi il est immortel mais pas éternel? Alors tout le monde a dit non, parce que les crédits ne sont pas arrivés.
Je précise pour nos auditeurs que vous avez sur la tête une ravissante casquette du Sénégal.
Ce que c'est
Sénégal dessus.
Oui, c'est mon autre patrie.
Je crois que c'était le Mali.
Ben, c'est le Mali, mais j'ai plus le droit d'y aller.
Ah oui.
Comme vous savez,
vous avez écrit de
comme j'ai beau être éternel, je ne veux pas être pris en otage. Ah oui. Vous voyez, parce qu'un immortel en otage, ça peut mettre longtemps avant que la rançon n'arrive.
Oui. On va se diriger vers la petite salle des séances avec Eric Orsena. On continue notre visite de l'Institut de France. On se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Eric Orsena sur Europe 1.
C'est possible.
Pour moi, l'Académie, c'est le club le plus fermé du monde. Je parle de l'Académie française.
C'est un peu fermé, c'est vrai. Il n'y a pas assez de femmes. Mais
on ne peut pas y entrer par tradition familiale, comme au Jockey Club. Il faut être
coopté.
On ne peut pas en être viré, sauf si le président de la République s'en mêle. Il faut avoir fait des trucs très graves.
Il y avait Maurice Dorion qui disait quelque chose, c'était que c'était la dernière institution d'Ancien Régime, puisque ça date de 1634-1635, mais en même temps la première de la République, puisqu'on est élu par élection.
Enfin, quand même, c'est un club très fermé.
Ah bah, c'est fermé.
C'est très élitiste.
Oui.
Quelles sont les qualités requises pour être élu?
L'idéal serait de représenter un peu toutes les disciplines, puisque notre mission première est de veiller sur la langue. Donc la langue doit raconter tous les savoirs. Donc il faut qu'il y ait des savants, il faut qu'il y ait des politiques, il faut qu'il y ait des religieux, il faut qu'il y ait... que ce soit cette diversité-là.
Ouais.
Donc on n'est pas forcément obligé d'être écrivain.
Non.
Puisque, par exemple, nous avons Valéry Giscard d'Estaing.
Qui a écrit des livres.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est écrivain.
Non,
quand on a écrit des livres.
Enfin, même quand on est écrivain, ça ne veut pas dire qu'on est un grand écrivain et qu'on restera.
Non plus. Ni qu'on a été chef de l'État. Même si on est ambitieux.
Moi, j'ai l'impression qu'il faut être acceptable. Alors, avant même d'avoir du talent, il faut être acceptable.
Parce que c'est une compagnie. Bonjour. C'est une compagnie. Donc une compagnie, et comme on ne peut pas être viré, donc une fois que vous êtes de la compagnie...
On entre dans un ascenseur.
On entre maintenant dans votre car. Il y a aussi de la modernité, c'est-à-dire que même à l'Académie... Même à l'Académie, il y a des ascenseurs. Et d'ailleurs... Depuis peu, nous avons l'électricité. Donc vous voyez, donc c'est quelque chose de très très moderne. Une électricité d'origine verte d'ailleurs, car nous avançons vers l'écologie. Ah, voilà, donc on passe dans des endroits. Alors grâce à vous, c'est en plus le bureau de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Pour qui je chéris cette inscription des belles lettres, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment le lieu du savoir absolu. Regardez. Oh, je ne suis jamais passé par là. Merci.
J'ai l'impression d'être où
passé par là. Alors attention, parce que ça, c'est notre...
Europe 1, en balade avec Eric Orsena. Frédéric Taddeï.
Attention, parce que ça, là, fermer parce que de l'autre côté, il y a une réunion de l'Académie des sciences, je crois. Et là, c'est notre salle de travail qui est réservée juste à nous, à l'Académie française.
Alors, siège rouge, cette fois.
Alors, vous allez voir, siège rouge. Et nous travaillons sous le portrait vigilant et sévère de notre créateur.
Richelieu.
C'est-à-dire Richelieu. Et ça, c'est en gloire. Et nous avons une autre version de Richelieu, beaucoup plus sévère, c'est-à-dire ici même,
ah oui,
sur le... Voilà, car on ouvre un petit panneau et nous avons ici le même Richelieu sur son lit de mort, parce que dans la grande...
Peinture d'époque, hein.
Dans la grande tradition catholique, la gloire est toujours proche des cendres. C'est le mercredi des cendres, vous savez. Souviens-toi que tu es mortel, memento, tout ça, c'est toujours là. Et quand nous arrivons, c'est quelque chose de très émouvant. La première fois que nous arrivons, le ou la perpétuelle nous dit « Veuillez prendre part à vos travaux », mais avant, il nous dit cette phrase qui glace un peu, mais qui nous apprend la réalité des choses. Et il dit « Vous avez vu, tout le monde s'est levé pour vous accueillir. La prochaine fois que nous nous lèverons pour vous, c'est à l'annonce de votre mort. » Donc c'est à la fois la gloire et les cendres. C'est à la fois le soleil et puis tout ce qu'on peut imaginer de plus bas. Donc c'est toujours un peu la même chose. Donc vous voyez, il y a toute cette culture catholique de la mort qui est aussi intimement liée à celle de la gloire.
Il y a une statue de Sainte-Beuve, une autre d'Alfred de Musset, oui, il y a des tapisseries. Voilà. C'est alors, très haut de plafond. Hein. C'est assez solennel.
C'est solennel. Et alors, on est ici. Donc ici, par exemple, il y a... Valéry Giscard d'Estaing est là, par exemple, il est juste là. Là à la Finkielkraut est là, ici, là, c'est sa place, ouais. On a chacun notre place.
Avec un micro un petit haut-parleur.
Avec un micro. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que de temps en temps, un certain nombre d'académiciens oublient de fermer leur micro. Donc, on entend des choses. Et par exemple, le président Giscard d'Estaing ne ferme pas toujours son micro. Et alors, on l'entend dire des commentaires. Oui, je ne comprends pas. Oh, cette discussion est assez inepte. Et donc, on est. Et donc, on suit un peu en direct les commentaires de chacun.
C'est où votre place donc, à vous?
Alors, moi, de l'autre côté. Je suis ici. Et alors, juste à ma droite, donc à la boule, juste à l'entrée, je suis pas loin de la sortie. Ça veut dire que j'aime le goût du voyage. Donc, je suis pas loin de la sortie. Et donc, pendant 12 ans ici, il y avait François Jacob, le prix Nobel de médecine. Et moi, j'étais à la place de Pasteur. Donc, il me disait, mais comment oses-tu t'asseoir sur la place de Pasteur alors que tu es deux fois ignorant? Puisque tu es un économiste et un romancier. Donc, les économistes sont déjà ignorants, mais alors, économistes, romanciers, ils savent rien. Donc, fais un effort. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une biographie de Pasteur et que je suis devenu ambassadeur de Pasteur.
Biographie qui s'intitulait voilà. « La vie, la mort, la vie
voilà. ». Et donc, je suis à côté de Jean-Marie Roire. Et alors, l'avantage de Xavier Darcos, c'est que maintenant, c'est le chancelier, donc c'est le patron de l'Institut. Et donc, c'est vraiment un ami que je respecte. Parce
et qui
que
est assis à côté de vous.
Qui est assis à côté de moi, qui est quelqu'un d'extrêmement savant, qui était un professeur de civilisation grecque, latine, et qui prépare un livre qui va être magnifique sur Ovide, oui. Sur les métamorphoses, qui va bientôt sortir. Et alors, ce qui était bien, quand j'étais avec à côté de notre ami Jacob, c'est que notre perpétuelle, notre patronne, n'osait pas l'engueuler.
Pourquoi ?
Pour deux raisons. Parce que d'abord, il était super beau. Et puis, en plus, il était Nobel. Donc, on n'embelle pas. Alors, comme on parlait sans arrêt, elle me faisait les yeux noirs. Et moi, comme à l'école, je disais, c'est pas moi, c'est lui. C'est pour ça qu'on a parlé pour là. Donc, il m'a raconté sa guerre. Parce que c'était quand même un prix Nobel, compagnon de la libération.
Vous ne faisiez pas comme Giscard, vous éteignez les micros.
Moi, je suis très habile, moi, vous savez. Donc, j'éteins les micros comme il faut. Et je ne les ouvre que quand j'ai l'honneur de discuter avec vous.
Il y en a qui chahutent. Il y en a qui chahutent. J'imagine bien Dominique Fernandez chahuter.
Il chahute un peu. Il chahute un peu. Avec nous sommes quelques-uns. Et puis, il y a eu des grands en face. J'ai eu en face de moi, imaginez, où j'ai eu pendant un bout de temps. Dahan, où il y avait Michel Déon, où il y avait Jacqueline de Romilly, où il y avait Lévi-Strauss, Jean d'Ormesson, et c'est des gens qui étaient avec qui j'ai eu des amitiés incroyables. Parce que c'est ça, ces académies, d'abord, c'est les amitiés. Imaginez par exemple que Jacqueline de Romilly, elle m'accueillait chez elle, elle avait une passion pour le whisky. Et elle me disait, j'espère que celui que... Elle était aveugle. J'espère que celui que vous m'apportez aujourd'hui n'est pas trop tourbé. Et la même, on a été à la coupole, et la même Jacqueline de Romilly, à sa dernière intervention, donc complètement aveugle, c'était sur l'école et la transmission. Elle a fait un discours magnifique, de chic, puisqu'elle était incapable de lire. Et j'étais à côté d'elle, et je lui dis, Jacqueline... Tout le monde s'est levé pour vous applaudir. Alors elle me dit, c'est la moindre des choses. Non.
J'ai vu qu'on lui avait donné le nom d'une salle.
Bien sûr.
Et la salle Jacqueline de Morillier.
C'était maintenant. Tellement drôle. Et puis Lévi-Strauss, je m'étais rendu compte que Lévi-Strauss, on était à un moment donné, juste avant les séances, il venait se reposer un quart d'heure. Et puis, donc, il y avait 10 minutes juste après sa mini-sieste. Et donc, j'ai eu cette chance pendant 10 ans de pouvoir l'écouter pendant 10 minutes tous les jeudis. Imaginez le trésor. Et non, c'est des rêves absolus, parce que c'est des gens les plus divers. Et donc, c'est la diversité. Il y a Pierre Nora, il y a Yves Pouliquen, qui est un magnifique médecin des yeux. Enfin, c'est cette diversité-là.
Eh bien, je vous propose qu'on en profite pour écouter Barbara, puisque vous lui avez donné carrément un chapitre de votre nouveau roman. Cette chanson très belle, « Attendez que ma joie revienne ».
Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous est arrivé à quelques-uns. C'est-à-dire que nous étions dans un chagrin d'amour épouvantable et quelqu'un, une dame ou un homme arrivait et on se pensait que quelque chose était possible. Mais on savait qu'il fallait que la joie revienne, parce qu'on ne peut pas bâtir un nouvel amour sans la joie. Et dans cette phrase, il y a une musique merveilleuse, mais il y a aussi des phrases terribles, et notamment cette phrase qui m'a bouleversé, serré le cœur, « Il est, paraît-il, des rivages où l'on guérit du mal d'aimer ». Et c'est toujours quand on vit un chagrin d'amour, cette sorte d'espoir
qu'on va oublier le précédent
et qu'on va trouver un endroit du monde où on pourra recommencer. Et c'est pour ça que dans le roman, le héros va à l'extrémité du monde, c'est-à-dire dans le détroit de Bering, au nord de l'Alaska, pour se dire bon, je vais peut-être être débarrassé de cet amour. Et c'est justement à cet endroit qu'un message lui vient qui permet de redémarrer l'amour.
Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi, ouvrez cette porte, laissez-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calmé mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine. Je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir pour que, libéré de ma chaîne, vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse. C'est la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends, c'est la sienne. Ils sont vivants, mes souvenirs. pardonne-moi, c'est lui que j'aime. Le passé ne veut pas mourir.
C'était Barbara, attendez que ma joie revienne. On continue notre balade avec Eric Orsenna dans l'Institut de France, à l'Académie française.
Europe 1, en balade avec Eric Orsenna. Frédéric Taddeï.
Nous voilà avec Eric Orsenna dans le couloir des bustes. Ils sont fort nombreux et très imposants. Un jour, il y aura le vôtre.
Sûrement pas.
Jules Simon, Guizot.
Non, c'est des gens de grande célébrité. Ouais. Parce que, vous voyez, c'est ça dans les académies, il y a des gens extrêmement...
Le compositeur.
Il y a des gens très, très connus, puis d'autres qui font partie de Ingres, vous voyez, c'est pas mal. Ouais. Et puis, il y a des gens qui, voilà, ont fait leur boulot, et puis ils se sont retrouvés là, et puis voilà.
C'est vous, ça.
Oui, c'est totalement moi. Et donc, moi, je vois le fauteuil, vous voyez, donc, il y a les deux immenses célébrités, enfin, et Cousteau aussi, très connu.
Votre nouveau roman vient de paraître, Eric Orsenna, Briserons-nous la mer gelée, chez Gallimard. Le héros, c'est Gabriel, votre alter ego. On l'avait connu déjà dans l'exposition coloniale, qui vous avait valu le prix Goncourt, dans longtemps aussi. Cette fois, c'est l'histoire d'un divorce. Le divorce de Gabriel, mais aussi son mariage, parce qu'il a bien fallu qu'il se marie avant de pouvoir divorcer.
Oui, j'ai le sens de la chronologie.
C'est très autobiographique.
Alors, c'est très autobiographique. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, c'est une histoire vraie, puisque c'est vrai qu'il y a eu un mariage, et puis c'est vrai qu'il y a eu un divorce. Mais à partir de cette base de l'histoire vraie, il y a évidemment tout ce que j'avais appris de l'amour au cours
de l'Institut,
des 20
magnifique.
Ans. Des 20 ans précédents, voilà. Et donc, c'est cet endroit absolument magique qui est donc ouvert aux membres de l'Institut et aux chercheurs.
Ouais.
Alors, ce sont des galeries en bois avec, évidemment, les usuels que l'on peut emprunter, avec des médailles, avec des dictionnaires partout, avec des atlas.
Il y a ces petites échelles que j'adore qui permettent d'atteindre les rayons supérieurs des bibliothèques.
Voilà, parce qu'il y a une galerie. Il y a une galerie tout du long de cette longue pièce, parce que c'est une pièce extrêmement longue, et il y a des bibliothécaires qui peuvent vous renseigner sur absolument tout ce que vous voulez.
Et puis il y a des petites lampes jaunes.
Et puis il y a des petites lampes jaunes, comme on avait avant dans les trains qui allaient vers Venise ou vers l'Orient. Et donc ici, et puis il y a des petits salons sur la droite. D'abord on a vu sur la grande cour, et notamment sur le bureau des longitudes où nous irons. Et donc ça c'est ce que j'adore parce que c'est au milieu de tout le savoir, donc au milieu de tout le possible. Et là il y a des petits salons sur la droite.
Ah oui, il y a les journaux du jour.
Qui donnent sur la cour.
On peut vivre ici au fond. Est-ce que vous avez des bureaux chacun ? Est-ce que vous avez une chambre à coucher ?
Malheureusement non. Vous savez cette phrase que on peut prononcer quand on est coquin dans les restaurants. Est-ce que vous avez des chambres ? Comprenez ? Ben non, malheureusement, il n'y a pas de chambres.
Il n'y a pas de chambres, pourtant il y a des académiciens qui n'habitent pas Paris.
Oui, mais d'abord, il y a des académiciens qui sont relativement âgés. Et donc, peut-être que leurs amours sont derrière eux. Et puis je d'autres, pensais, non, qui s'obstinent.
Je pensais pas d'autres à ça, je pensais juste non, à dormir, Eric.
Non, mais dormir, qu'est-ce que c'est de dormir ? Le repos éternel, ça ne
me concerne
pas.
Alors, autre question, y a-t-il une cantine, un réfectoire ?
Alors, il y a une sorte de restaurant qui est réservé à ceux qui travaillent le matin dans la commission du dictionnaire, à laquelle je n'appartiens pas parce que je voyage trop, j'ai pas assez de régularité, mais il y a un déjeuner rituel qui réunit ceux qui participent vraiment au dictionnaire. Alors, cette vue est magnifique parce qu'on est dans la première cour. Ouais. Et on a la coupole ici qui s'élève.
Juste devant nous.
Juste devant nous. Et on sait que derrière, il y a le Louvre, ce qu'on a dit, et puis la Seine. On s'est tout à fait protégé, exactement. À la fois, c'est protégé, et en même temps, on sent dans la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que c'est une sorte de pilotis comme ça qui vous entraîne comme ça très très loin vers le XVIIe siècle. Il y a une sorte de. Et puis, on dit que c'est l'autre famille, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est une autre famille. Il y a des amitiés qui se sont créées Et puis il y a plus, il n'y a pas tellement d'inimitié. Il y a eu des batailles terribles hein, ouais. entre les gaullistes et les pétinistes. Ça a été bon, terrible.
Récemment encore, il y a eu certaines élections qui ont scindé un peu l'académie.
Oui, mais au fond, c'est moins difficile que ça a été. Puis au bout d'un moment, les choses étant ce qu'elles sont, donc ça continue. Et il y a plutôt en ce moment, je trouve, une bonne fraternité.
Une bonne ambiance, on pourrait dire.
Une bonne ambiance. On est une bande de jeunes et on s'amuse.
Oui, c'est un club. C'est un club.
Enfin, c'est clairement un club.
Comme d'habitude, dans votre roman, vos amoureux courent les océans. Ça vous vient d'où, ce goût des voyages qui vous fait rater les heures du dictionnaire ?
C'est mon père, en fait, parce que...
Le Cubain ?
Mon père était marin, oui, le petit-fils de Cubain. Et surtout, on avait une maison dans l'île de Bréhat, en Bretagne. Et donc, j'ai su naviguer depuis mon plus jeune âge. J'étais seul sur un bateau à voile à 8 ans, 9 ans.
C'est pour ça qu'ils vous ont donné le siège du commandant Cousteau.
C'est une logique absolue.
Vous étiez contre Yves Coppens, qui avait quand même découvert Lucie.
Oui.
Si vous en préférez, vous, c'est à cause du bateau, je pense.
Uniquement à cause de ça. De toute façon, je suis le roi de l'absence de légitimité. Donc, puisque je suis ambassadeur de Pasteur, alors que j'y connais pas grand-chose, j'ai beau me soigner, mais en fait...
Ambassadeur de l'Institut.
De l'Institut Pasteur, exactement. Mais il est vrai que je travaille... je m'amuse comme un fou. Alors là, attention.
Il y a une autre bibliothèque, là.
Alors là, vous allez voir.
Bibliothèque encore plus grande, avec des bustes, un globe terrestre magnifique, encore plus haute de plafond, et cette fois avec des lampes vertes. Mais on s'y retrouve dans un instant. Nous sommes avec Eric Orsena dans la bibliothèque Mazarine. Donc tous les livres qui nous entourent, ce sont les livres du cardinal Mazarin, ceux qu'il a légués au collège et à l'église et à la bibliothèque qu'il a fondée par testament à sa mort et qui sont devenus aujourd'hui l'Institut de France. Mais la bibliothèque Mazarine, c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France, hein, Eric Orsena. Vous qui avez rendu un rapport sur les bibliothèques à Emmanuel Macron il y a peu.
Ben oui, pour les ouvrir, les bibliothèques, les ouvrir le maximum. Et c'est vrai qu'on a réussi à les ouvrir pas mal, puisque pour 8 millions de Français qui ont la possibilité dans ces endroits-là, on a ouvert les bibliothèques de plus 8 heures chaque semaine, parce qu'on est très très en retard par rapport à tout ce qui se fait dans les autres pays européens et même du monde. Alors ici, pour moi, c'est la plus belle de France, c'est une des plus belles du monde.
On parle pas fort parce qu'il y a beaucoup de lecteurs. Hein, les publics,
exactement.
Donc, elle est fréquentée.
Bah oui, elle est fréquentée, figurez-vous. Et donc, elle est très très belle. D'abord à l'intérieur, parce que c'est très haut de plafond, avec une galerie, des colonnades, des bustes, c'est très très solennel, avec des livres absolument partout qui sont magnifiques, avec des globes terrestres. C'est un endroit qui est au fond assez difficile, parce que c'est d'abord tellement beau comme endroit, et nous allons nous diriger vers son extrémité, et cette extrémité nous permettra d'avoir sans doute la plus belle vue de Paris. Et nous allons vous la décrire.
On y va, mais sans bruit, parce qu'ils travaillent tous.
Europe 1, 11h30, en balade avec Eric Orsena. Frédéric Taddeï.
La plus belle vue de Paris, ce serait là, donc.
Alors, à mon sens, c'est là, parce que nous avons juste en face de nous la Seine qui coule, qui passe sous le pont des Arts. Et en face, nous avons le Louvre, la partie est du Louvre, et qui va aller jusqu'au jardin des Tuileries. Et donc ça, c'est cette première partie de la vue, donc juste en face de nous, qui est donc perpendiculaire au quai. Et si nous avançons un petit peu, nous avons une autre partie, qui est aussi très très belle, parce que c'est le croissant voulu par Levaux, où il y a le collège des Quatre Nations. Et alors, il y a cet endroit-là que j'aime particulièrement, qui est un petit coin derrière le bureau, où là, on voit la vue que je trouve la plus merveilleuse, parce qu'on a, à main droite, nous avons juste en bas de nous, nous avons la Seine qui continue à couler, nous avons l'extrémité ouest de Paris, nous avons au loin une base, le Grand Palais, derrière... Nous avons la Défense et à gauche, nous avons ce croissant avec à son centre la coupole et ce sorte de palais néo-grec.
Et à droite, le pont des Arts.
Et à droite, tout à fait, le pont des Arts et les différents ponts qui sont ici. Et donc là, c'est vraiment
le cœur de Paris et la France étant ce qu'elle est, un des cœurs de la France. Donc ici, alors c'était des ponts qui avant étaient tout à fait surchargés, c'est-à-dire qu'il y avait des maisons, des commerces, comme on peut le voir encore à Florence, par exemple, à Venise. Maintenant, ça n'existe plus, mais il y a toujours, et ce quai-là de l'autre côté, c'est le quai François Mitterrand, qui évidemment a fait beaucoup, beaucoup pour le Louvre, puisque c'était son grand œuvre de faire de ce musée, qui était un peu vieillot, maintenant le premier musée du monde, puisqu'il reçoit chaque année pas loin de 10 millions de visiteurs.
C'est vrai qu'avant François Mitterrand, il y avait le ministère des Finances.
Alors il y a des scènes extraordinaires avec le ministère des Finances, parce que le cher ministre des Finances, il voulait pas partir. Parce qu'on avait construit à Bercy, mais pas partir. Et donc, je me souviens de réunions.
C'était Balladur.
Et je me souviens des réunions avec François Mitterrand, où il y avait Jacques Lang, où il y avait différents ministres, Biasini et tout ça. Et François Mitterrand donnant consigne à Biasini, le secrétaire d'État chargé des grands travaux, et lui disait : débrouillez-vous, faites du bruit, mais qu'il s'en aille.
Attendez, en parlant de Balladur. Vous devez confondre, parce que quand Balladur était ministre de l'économie et des finances et qu'il était au Louvre, c'était Jacques Chirac qui était Premier ministre, il n'y avait pas Jacques Lang.
Mais si, parce qu'il avait gardé des liens. Jacques Lang n'a jamais quitté.
Il était à l'Élysée, Jacques.
Il était en contact direct. Et non plus, Biasini non plus. Mais comme il s'occupait toujours des travaux, il leur disait « faites du bruit pour virer le ministre des Finances ». Et c'était la cohabitation. Et le plus grand dossier de la cohabitation, c'était évidemment de virer. Et alors, j'ai eu participé à des débats insensés. Parce que quand l'architecte américano-chinois Pei a dessiné sa pyramide, il y a eu des polémiques absolument inouïes en disant « ça y est, François Mitterrand veut vendre le Louvre aux Arabes ». Aux Arabes, il faisait la confusion entre les Égyptiens et puis les Arabes. Donc, je me souviens, avec François Mitterrand, on était écroulés de rire. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ?
Eh bien, je vous propose maintenant qu'on écoute Leonard Cohen, puisque lui aussi, il est très présent dans votre nouveau roman, Eric Orsena, non seulement parce que votre héroïne lui doit son prénom, mais aussi parce que vous y dites que c'est le champion du monde des passions tristes, celui qui nous dégoûtait du bonheur tellement il chantait bien le malheur. C'est ce que vous écrivez dans votre
roman. Je confirme, j'ai une passion, et je pense qu'il aurait mérité le Nobel bien plus que Bob Dylan.
Vous dites que c'est bien plus beau. Bah, écoutons son dernier chef-d'œuvre, terminé par son fils, juste après sa mort. Il avait 82 ans, Leonard Cohen, quand il a enregistré Happens to the Heart. Qu'est-ce qui arrive au cœur ?
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kinda sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. I should have seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson. No singing meadowlark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? I was always working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart?
C'était Leonard Cohen qui chantait Happens to the Heart. On va quitter la bibliothèque Mazarine avec Eric Orsenna, on va pouvoir parler un peu plus fort.
Europe 1, en balade avec Eric Orsenna. Frédéric Taddeï.
Nous voilà dehors avec Eric Orsenna, dans la cour. Eric Orsenna qui publie un nouveau roman, Brisé, rends-nous la mer gelée, chez Gallimard. Eric Orsenna qui nous fait toujours visiter l'Institut de France. On va se diriger vers le Bureau des Longitudes, un nom qui fait rêver. Hein. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit quand on sera là-bas. Sur votre fiche à l'Institut de France, que j'ai été consulté pour savoir à qui j'avais affaire, avant d'entamer cette visite, Eric Orsenna, vous êtes le numéro 695 et on vous qualifie d'homme politique avant de dire que vous êtes romancier. Comment faut-il le prendre ?
Pas pour une erreur, typique fake news, comme on dit en français. Je ne suis pas du tout homme politique.
Et c'est référence au fait que vous avez été au cabinet de Jean-Pierre Cotte, j'étais ministre, puis conseiller culturel de François Mitterrand.
Puis conseiller de Roland Dumas quand il était ministre des Affaires étrangères, mais 8 ans. Mais justement, je n'ai jamais voulu être homme politique, c'est-à-dire pour moi, homme politique, c'est-à-dire élu. Pour une raison simple, c'est-à-dire par manque de générosité, par manque de continuité et par goût de la liberté. C'est-à-dire que j'adore, moi, être disponible pour une mission, pour un commando, mais après, j'ai envie de me retirer pour écrire et puis pour faire du bateau. Et les deux, pour moi, sont très, très liés. Donc j'aime bien l'alternance, si on peut dire, d'activité forte et puis après de liberté. Et puis, souvent, des politiques, ils disent « Ah là là, mais toi, t'es pas élu. » Je dis « Mais peut-être, mais moi, je suis élu. » Et donc, il y a une sorte de responsabilité à être élu, au fond. Si je devais me qualifier, je serais un élève perpétuel. J'ai une sorte de gourmandise infinie de savoir. C'est pour ça que je suis tellement heureux d'être à l'Institut, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'Institut, avec ses 5 académies, c'est une encyclopédie vivante. Vous n'êtes pas au milieu des mots, vous n'êtes pas au milieu des schémas, vous n'êtes pas au milieu même des photos ou des gravures des savants ou des peintures des savants, vous êtes au milieu des savoirs.
Et d'ailleurs, là, on est dans la cour où jouaient les élèves du collège autrefois.
Exactement, du collège, parce que c'est le collège des quatre nations, comme on l'a dit. Et donc, je me sens vraiment un collégien.
Mais quand vous étiez conseiller culturel de François Mitterrand, là, vous n'étiez pas l'élève, vous étiez plutôt dans le rôle du prof qui doit rappeler quelques trucs,
non ? Non, pas du tout, j'étais l'élève de François Mitterrand. Imaginez être conseiller culturel de François Mitterrand. C'est comme si vous étiez stagiaire chez Johnny et vous étiez conseiller en chant de Johnny Hallyday. Vous comprenez ? Pas du tout. Moi, j'étais juste... J'écoutais.
Vous lui donniez quoi comme conseil ?
Bah, d'abord, il y a des dossiers. Parce que vous savez, la culture, c'est extrêmement technique. C'est extrêmement technique. Par exemple, c'est grâce à Jacques Lang, et je lui ai apporté tout mon soutien, que nous avons édicté le principe de la loi unique du livre. Et qu'on ne fasse pas des concurrences sur le prix du livre qui aurait donné aux grandes surfaces, évidemment, la possibilité d'écraser toutes les petites librairies.
C'est pour ça qu'il y a encore des librairies et qu'il n'y a plus de disquaires.
Et qu'il n'y a plus de disquaires, exactement.
Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de prix du disque.
On dit, ah, la concurrence, c'est bien la concurrence. Ben, la concurrence a tué tout le monde. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est très technique. Il y avait, par exemple, la possibilité d'améliorer la fiscalité pour les mécénats. Parce que si vous ne regardez pas très concrètement quelles sont les règles de défiscalisation, vous ne pouvez pas développer le mécénat.
Mais ça, c'est Jean-Jacques Ayagon, beaucoup, qui a la vraie loi sur le mécénat.
Non, mais attendez, il y a la question des droits d'auteur. On a revisité le droit d'auteur parce que c'était le tout début du numérique, c'était le début de Canal+, c'était le début de l'ouverture des ondes qui était complètement verrouillée pendant un certain temps. Et donc, vous voyez, la culture...
Vous étiez chargé aussi de la Légion d'honneur pour les gens de la culture.
C'est pour ça que je ne l'ai pas.
Parce que vous avez vu à quel point c'est horrible de la demander.
Oui, non, mais alors la Légion d'honneur, moi, c'est formidable parce que j'ai vu des gens incroyables.
Il venait vous la demander, carrément ?
Bien sûr, avec des sortes d'habiletés invraisemblables, des ridicules au-delà de ce qu'on peut imaginer. Par exemple, il y en a un qui me disait, regardez, vous avez vu là à mon revers ? J'ai dit, oui, vous êtes chevalier, c'est déjà bien. Oui, mais vous savez, depuis combien de temps je suis chevalier ? Je dis, ah non, franchement, je n'ai pas tenu à jour la fiche de votre élévation dans le grade dans l'ordre de la Légion d'honneur. Alors, il me disait, parce que moi, je, quand même, étant donné tout ce que je fais, je devrais être officier. Et alors, là, bon, c'était grotesque, mais là, le ridicule arrive parce qu'il me dit, mais c'est pas pour moi, vous comprenez bien, parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est pas pour moi. Non, bien sûr, mais c'est ma mère. Elle me dit, mais depuis le temps que tu es chevalier, si tu n'es pas passé officier, tu as fait quelque chose de mal. Et d'ailleurs, je prépare une encyclopédie mondiale de la flatterie, parce que quand vous êtes conseiller d'un puissant, on vous dit des trucs incroyables. Il y en a un, par exemple, qui m'a dit cette phrase que j'ai gardée en mémoire tellement elle me fait marrer. Il dit, mais je ne savais pas, puisque vous portez un pseudonyme, mais je ne savais pas que le très haut fonctionnaire dont j'admire l'action est en même temps l'auteur que sous un autre nom, ma femme aime tant lire.
C'est pas mal, c'est joli.
Donc, on devrait avoir des Jeux Olympiques de la flatterie.
On se retrouve juste après les infos avec Eric Orsena qui continue de nous balader à l'intérieur de l'Institut de France.
Frédéric Taddeï, en balade avec Eric Orsena sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Eric Orsena. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Eric Orsena qui publie un nouveau roman, Briser en nous la mer gelée, aux éditions Gallimard. Eric Orsena, membre de l'Académie française, qui depuis tout à l'heure nous fait visiter l'Institut de France. Nous sommes allés à l'Académie française, nous sommes passés devant l'Académie des sciences, il y a eu l'Académie des beaux-arts, et là on arrive au Bureau des longitudes. Alors de quoi s'agit-il, Eric ? C'est quoi le Bureau des longitudes ?
Alors, le Bureau des longitudes, ça marque bien la passion qui a présidé à toutes ces académies, c'est-à-dire la passion du savoir, c'est-à-dire pas seulement la protection du patrimoine, mais avancer dans la connaissance. Et le Bureau des longitudes, où Arago, le grand savant Arago, a œuvré, c'était un endroit où on archivait tout ce qu'on pouvait savoir de la dimension de la planète et de s'y retrouver. Parce que les latitudes, c'était assez simple, mais c'est-à-dire les lignes qui sont parallèles à l'équateur, mais les longitudes, c'est différent puisque c'est l'est, l'ouest, et c'est ce qui quadrille du nord au sud. Donc, il y a un lien très étroit entre l'espace et le temps. Et si vous n'avez pas de chronomètre, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes. Donc, moi, ça m'a frappé parce que c'est là où on invente le lien entre l'espace et le temps. Donc, il y a les coordonnées. Donc, si vous voulez, c'est le pré-Einstein, si vous voulez. Donc, on est vraiment au cœur du savoir. Et donc, et c'est ce moment où les gens réfléchissent en disant, au fond, qu'est-ce que la Terre ? Et donc, pour ça, il faut tous les savoir. C'est pour ça que j'aime tant l'Institut, c'est que pour comprendre la réalité, il faut croiser tous les savoirs. Et que dans la modernité, on a séparé les savoirs. Par exemple, rien n'est plus faux, à mon sens, que la distinction entre une culture littéraire et une culture scientifique. Et quand je suis avec des savants, je leur dis, si je ne comprends pas, c'est de votre faute. Moi, j'ai une intelligence, disons, moyenne, mais une curiosité largement supérieure à la moyenne. Donc, si je ne comprends pas, faites un effort.
Vous êtes sûr que c'est devenu tellement complexe aujourd'hui ?
Non, on peut y aller, on peut comprendre. Et on est obligé de comprendre. Étant donné ce qui se passe, les menaces qui pèsent sur notre planète, on peut comprendre. Regardez, il y a 10 ans, personne n'aurait été capable de nous décrire simplement ce qu'est un gaz à effet de serre. Maintenant, tout le monde le sait. La première fois où j'ai navigué dans le Cap Horn, aux alentours du Cap Horn, on me disait « Alors, est-ce qu'il y a des tempêtes ?» Et les autres fois, on me disait « Est-ce que ça fond ?» Donc, la préoccupation climatique nous oblige à avoir une culture scientifique.
Eh bien, rentrons dans le bureau des longitudes, puisqu'il nous tend les bras.
Je note simplement que le bureau des longitudes, l'inscription n'est plus là.
Ah oui.
Alors, je demande vivement que l'inscription Bureau des Longitudes soit là, parce qu'il y a des interventions d'artistes, je vois un œil, tout ça est très joli. Mais enfin, quand même, Bureau des Longitudes, pour moi, c'est la légende, mais la légende fertile. C'est pas la légende qui est du conservatoire. C'est la légende, c'est la curiosité. Et comme aujourd'hui, on est menacé, parce que le savoir est lié à des soupçons. Puisque savoir, élitisme, complications, conflits d'intérêts, etc. Donc il faut relancer la passion pour le savoir. Donc il faut remettre sur le fronton Bureau des Longitudes.
Europe 1, en balade avec Eric Orsena. Frédéric Taddeï.
Premier étage, ouverture des portes.
Bonjour madame. Donc voilà, bonjour madame. Eric Orsena, bonjour madame. Donc voilà, le bureau des longitudes. Donc ça n'a de longitude que l'étendue en longueur. C'est là, voilà.
Il n'y a plus rien, c'est ça ?
Mais c'est-à-dire que nous sommes dans des nouveaux locaux, voilà, qui ne sont pas tout à fait aménagés. Voilà.
D'où tous ces cartons empilés.
Tous ces cartons en attente.
C'est des cartons, on a l'impression que c'est un bateau qui vient de débarquer, comme ça, ce qui est un peu le cas, voilà. Et nous avons le grand mathématicien Lagrange, il y a son buste ici, et puis il y a une bibliothèque qui est magnifique, ici. Et c'est vrai qu'on peut imaginer tout ce qui s'est pensé, c'est-à-dire c'est un des endroits où on a inventé la possibilité de mesurer la planète. Et de savoir où on était sur la planète. Vous voyez, c'est les ancêtres de Waze, de Google, de tout ce que vous pouvez imaginer.
Oui, c'était cette grande table verte avec de la feutrine et des sièges autour.
Et des sièges autour où il y avait, on imagine, les savants qui disaient « Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais tout ça, ce qu'on peut imaginer. » Et notamment, il y a ça. Et puis, il y a ce qui me bouleverse, c'est, vous savez, la question de l'astronomie, c'est-à-dire toutes ces batailles. Arago qui dit de notre ami Le Verrier qu'il avait vu cette nouvelle planète à la pointe de ses équations.
Et oui, c'est-à-dire qu'il a déduit qu'il y avait une planète là où personne ne l'avait encore vue.
Parce que voilà, ce qui était suivi, les parcours des autres planètes, étaient irrégulières. Donc il y avait un corps étranger. Ce corps étranger, c'était la seule explication possible, c'était qu'il y avait une autre planète. Donc on déduit sans voir. Et après, la vue correspond. Alors qu'en général, c'est l'inverse. Donc ces savoirs-là me bouleversent infiniment. Parce que comme je suis totalement voyeur, donc plus je trouve des moyens de voir ce qu'on ne voit pas, j'adore.
Je peux comprendre. On se retrouve dans un instant. On continue notre balade avec Eric Orsena.
Frédéric Taddeï, en balade avec Eric Orsena sur Europe 1.
Nous voilà de retour dans la cour principale avec Eric Orsena, la cour principale de l'Institut de France. On vient de longer l'auditorium, on retourne vers la coupole. Votre nouveau roman, Eric, tourne autour d'une question qui semble vous lanciner, c'est qu'est-ce que l'amour ?
Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus intéressant que ça ?
Non, mais je me dis que là, il y a l'Académie des sciences, vous devriez leur poser la question. Ils vous répondraient, mais d'une façon qui ne risque de ne pas vous satisfaire.
Mais non, parce que justement, eux n'ont pas la réponse. Et c'est là où les arts...
Les romanciers,
les
surtout.
Les arts et les romanciers, mais aussi les peintres, mais aussi les musiciens, en savent plus, parce que ceux qui ont inventé la valse, c'est intéressant la valse, parce que la valse, c'est, comme chacun sait, une danse à trois temps, mais avec deux personnages.
Qui donc, sont là, en plus, qui étaient révolutionnaires.
Exactement. Donc quand
une danse impure.
Quand on, oui, les uns près des autres. Et quand on est à deux, mais sur un rythme à trois, en général, c'est un peu plus compliqué. Et donc, voilà. Donc les arts, en général, en savent beaucoup plus que la science sur l'amour. Mais en même temps, quand vous êtes amoureux, en tout cas, moi, j'ai cette expérience-là, c'est que tout s'ouvre. C'est-à-dire que vous êtes en communication avec le monde et que ça soit la période heureuse de votre amour ou la période triste si jamais la personne s'en va ou vous dédaigne, c'est que brutalement le monde arrive en vous. Vous n'êtes plus seulement vous-même. Donc vous êtes en connexion, en relation avec le reste du monde. Et c'est pour ça que j'aime tellement la géographie parce que l'amour, par exemple, est toujours lié à des souvenirs. L'amour est lié à des lieux. Vous vous souvenez à quel endroit vous avez rencontré la femme que vous étiez en train de commencer à aimer.
Et puis les voyages, ça a permis de multiplier les rencontres. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage comme Gabriel, votre alter ego, tombe si souvent amoureux, par exemple?
Parce qu'il regarde d'abord. Parce que moi,
il est voyeur.
Il est regardant.
Il a un goût insatiable des femmes, disait Bertrand Poirot Delpeche lors de votre intronisation,
mais ce qu'il
dans
découvre,
votre réception. Pardon.
Oui, mais ce qu'il découvre aussi dans ce roman, c'est quelque chose qu'il n'avait pas jusqu'à présent particulièrement éprouvé, c'est l'expérience de la préférence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une femme qui occupe un peu, vous savez, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et donc il y a ce sentiment-là qu'il a, et donc c'est l'histoire d'un coup de foudre de 4 ans, puisque proposition, et ça c'est dans la réalité, proposition de mariage dès le deuxième dîner, suivent 4 années vraiment difficiles, parce que à partir de ce oui du mariage, au fond il y avait plein de non. Et puis il y avait plein de fantômes. Parce que quand vous dites oui à quelqu'un, vous croyez que vous dites oui à une seule personne. En fait, il y a son père, est-ce qu'il l'a aimé, pas assez. Et puis il y a ses anciens, et puis il y a.
Oui,
tout
en fait,
ça.
C'est tout un monde. Quoi.
Donc vous épousez un monde. Donc vous aimez la personne, mais est-ce que vous aimez le monde de cette personne? C'est pas sûr. Donc est-ce que les oui l'emportent sur. Est-ce que le grand oui l'emporte sur les petits non? Est-ce que. Comment ça marche? Et puis à un moment donné, ça marche pas. Et puis vous rendez compte que, ben oui, c'était elle. Et donc vous vivez dans cette tristesse terrible. Et puis si vous avez de la chance, la personne vous envoie un message alors que vous êtes à l'autre extrémité du monde.
Justement, parce que c'est aussi l'autre question que vous posez. Qu'est-ce qui explique qu'une histoire s'arrête alors que les protagonistes s'aiment encore?
Parce que les gens n'osent pas. Parce que les gens n'osent pas finalement avoir tort. Parce que les gens ont peur de la souffrance grande qu'ils ont éprouvée. Ils ne veulent pas que ça recommence. Parce qu'ils se disent les mêmes causes donnent les mêmes effets. Pourquoi est-ce qu'on va, comme on dit vulgairement, remettre le couvert? Et puis, mais simplement, ils font pas cette démarche de dire, au fond, c'est elle. C'est tout simple. Au fond,
est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est parce que c'est un roman, que dans les romans, on a tous les droits? Au fond, des gens qui s'aiment encore, qui se séparent et qui ne reviennent pas ensemble, c'est dans les romans.
Pas du tout. Non. Je connais des tas de gens qui se sont séparés et qui se sont retrouvés. Parce que vous savez.
Ah justement, oui, c'est
oui,
ça.
Non, mais qui se sont retrouvés.
On se retrouve.
Dans la réalité.
Dans la réalité.
Dans la réalité, se
parce
sont.
Parce que sinon, on reste pas séparés quand on s'aime encore, à part dans les films,
si.
Dans les romans.
Non, il y a des tas de gens pour qui c'est pas le moment.
Ah oui.
Vous savez, il y a des horloges dans chacun de nous. Et parfois, on n'est pas suffisamment fort ou suffisamment fragile. Parce qu'il faut cette articulation de la force et de la fragilité, c'est-à-dire la définition même de la vie. Et il y a des moments où c'est trop tôt. Puis il y a des moments, malheureusement, où c'est trop tard. Et donc c'est ça qui me passionne. Et c'est une histoire très autobiographique. Je ne peux comprendre qu'en racontant les histoires. Donc ça peut être l'histoire de l'eau, l'histoire du caoutchouc, l'histoire de tout ce que vous pouvez imaginer.
C'est le côté économiste.
Oui, l'histoire de langue française. Mais je ne comprends que parler. Il était une fois. Et là, c'était. Il était une fois un amour. Et j'espère que on pourra passer bientôt au futur, c'est-à-dire il sera encore un amour.
Alors quand on est ici, on découvre qu'en fait, il y a plein d'académiciens. On ne sait pas qui sont académiciens. Il y a plein d'étrangers, notamment, qui sont là. Et il y a William Christie.
Et il y a William Christie.
Que vous aimez beaucoup,
William,
je crois.
William Christie, avec qui je travaille, parce que je suis parrain de sa fondation. Et donc, à William, je travaille avec lui, avec bonheur. Et c'est William qui m'a fait découvrir cette musique incroyable du baroque, ce que je l'appelle le Bill de Buffalo. Puisque c'est que William Bill, il vient de Buffalo. Il a choisi de venir en France. Il a choisi de se mettre à la disposition de la musique française et de la musique...
Avec les Arts Florissants, notamment. On écoute William Christie avec l'Orchestre des Arts Florissants. Ils interprétaient Dominus Regnavit de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. Ça, c'est du baroque. Puis là, il y a tout l'esprit de la monarchie que vous adorez.
Ah, c'est exactement ça. Exactement. La monarchie républicaine, ce que je préfère.
Frédéric Taddeï se balade avec Eric Orsenna sur Europe 1.
C'était Dominus Regnavit de Cassanea de Mondonville, un compositeur du XVIIIe siècle. L'orchestre était dirigé par William Christie, qui occupe le fauteuil numéro 1 de la section 6. Célèbre chef d'orchestre américain, naturalisé français, lui aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts. On se retrouve tout de suite avec Eric Orsenna. Bon, on revient à la coupole, on revient au départ. On est revenu au show avec Eric Orsena, sous la coupole, le marbre, la feutrine verte, les sièges. Où était votre siège à vous
Alors là, nous n'avons pas de siège fixe à la coupole, ça dépend de nos arrivées. Mais ce qui est très émouvant dans cette coupole, c'est cette architecture. Parce que comme vous voyez, quand vous levez la tête, vous avez un jeu de formes absolument génial, puisque vous avez des endroits d'ellipse et vous avez des endroits qui sont uniquement circulaires, et vous avez le dialogue entre l'ellipse et le circulaire avec des colonnes qui montent. C'est d'une subtilité, d'une élégance et d'une paix absolument incroyable. Ça, c'est comme, pour moi, cet endroit-là, c'est un peu à l'architecture ce qu'est le clavecin bien tempéré à la musique. Je ne suis pas croyant, mais cet endroit-là, comme la musique de Bach, me fait dire que Dieu devrait remercier et Bach et les architectes.
Faut dire que
certains.
C'était une chapelle au départ. Hein. C'était
On la sent. Et c'est extraordinaire, comme s'il y avait une sorte de nostalgie de la foi ou de souvenir du moment où on croyait.
Vous êtes né en mars 47, Eric Orsena, à quelques jours près, comme Elton John d'ailleurs.
Oui, on est pareil d'ailleurs,
oui,
pareil.
Vous à quelques. Un peu.
On est le même genre, à quelques revenus aussi près, c'est un peu différent.
C'était le tout début de la guerre froide, et la guerre froide aussi occupe une petite place dans votre nouveau roman.
Comme
vous
tout
l'avez
mariage.
Bien vécu, la guerre froide, vous, parce que vous l'avez vécu depuis le début.
Alors, j'étais très très tôt passionné par la politique, parce qu'il se trouve qu'une partie. Dans ma partie de ma famille, il y avait des militaires, et que ces parties de ces militaires-là étaient à Dien Bien Phu. Et je me souviens, mon premier souvenir politique, c'était en 1954, c'est-à-dire la perte de Dien Bien Phu au printemps de 1954, et on se demandait si nos oncles étaient morts ou est-ce qu'ils étaient prisonniers. Est-ce qu'il valait mieux d'ailleurs être mort ou être prisonnier. Et donc on avait une grande carte chez nous. Et on voyait l'avancée des forces vietmines pour chasser les Français de la cuvette de Dien Bien Phu. Donc c'est un souvenir très fort. Et puis après, il y a eu 56, deux ans après, c'est-à-dire Suez, mais avant l'avancée en Hongrie. C'est-à-dire voilà ce qui allait se passer après en Tchécoslovaquie.
Budapest donc, d'abord, Prague
donc,
ensuite.
Et c'est pour ça que je prends cette allégorie de la guerre froide pour raconter au fond un divorce, enfin les périodes qui précèdent un divorce, puisque ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est le passage sans arrêt et les échos entre les drames personnels de deux petites personnes et puis ce que vit le monde. Et en fait, ce que vit la planète, c'est une sorte, une hypertrophie, un agrandissement de ce que nous vivons, nous. Comme un jardin, c'est exactement le modèle du monde.
Mais on pourrait dire aussi que la mondialisation, qui vous a beaucoup intéressé, vous avez consacré plusieurs précis de mondialisation, alors au papier, à la mer, aux villes, aux moustiques, au coton. On pourrait dire que la mondialisation, c'est ce qui succède à la guerre froide. Après la séparation, alors, tout à coup, il y a le marché qui envahit toute la planète.
Alors, on a cru à un moment donné, avec l'effondrement du mur de Berlin, on a cru qu'il y aurait un seul monde. Cette illusion a duré, on a cru qu'il n'y avait plus d'histoire, et bien finalement l'histoire est revenue, et aussi la géographie. Parce que qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la maîtrise des humains sur la planète. Qu'est-ce que c'est la géographie? C'est une sorte d'humilité par rapport à la Terre. Donc ce qui revient maintenant, c'est à la fois de nouveau un morcellement, on le voit bien. Moi, il y a de tas de pays dans lesquels j'ai été tranquillement où je ne peux plus aller. Mon cher Mali, je ne peux plus y aller. Je peux plus aller au Niger, les trois quarts du Niger, je peux plus y aller, etc. Je peux plus aller au Yémen, dans des tas d'endroits que j'ai tellement aimés. Donc, c'est-à-dire que des murs, mais il y en a bien plus qu'au moment du mur de Berlin où il y avait un seul mur. Maintenant, il y a des murs partout. Vous avez vu ce que Trump veut faire avec le Mexique. Donc, les murs partout et en même temps la géographie. C'est pour ça que c'est un livre aussi sur la géographie et c'est pour ça que j'ai tellement aimé cette définition. Du détroit, notamment le détroit de Bering, par Littré, donc l'immense personne qui m'a précédé à ce fauteuil, c'est-à-dire, il dit, qu'est-ce qu'un détroit? Un bras de mer resserré entre deux continents. Et pour moi, c'est exactement la définition de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Un bras de mer resserré entre deux continents. Et ce bras de mer peut s'étendre, et à ce moment-là, l'amour est mort, et il ne restera que la nostalgie douloureuse.
Merci.
Ce qui est un pléonasme, parce que nostalgie veut dire une douleur.
Merci Eric Orsena de nous avoir emmenés en balade avec vous dans l'Institut de France, ses 5 académies, ses innombrables cours, ses nombreuses bibliothèques.
Dont les sciences morales et politiques.
Dont les sciences
morales et politiques. Donc c'est peut-être juste avant les municipales, il faudrait souhaiter que la politique soit habitée par les sciences morales.
Merci donc à l'Institut de France de nous avoir si gentiment ouvert ses portes. Merci Eric Orsena. Je rappelle que votre nouveau roman, Briser en nous la mer gelée, vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Frédéric Taddeï, en balade avec Eric Orsena sur Europe 1.